Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle, avec vous, nous allons passer toute la matinée ensemble. Beaucoup de sujets à discuter. On va parler de santé au cours de la prochaine heure et de plein d'autres sujets. Mais je ne peux commencer cette émission sans, bien sûr, rendre hommage à une grande femme qui nous a quittés, Lise Payette, qui est décédée à 87 ans et qui aura, il faut le dire, sincèrement, pour des générations de femmes, de Québécoises, de jeunes filles. Quand je regardais Mme Payette et que je rêvais à une carrière en communication, une carrière aussi comme une femme qui puisse peut-être aider à changer le Québec, mais bien sûr, on regarde des femmes avec des profils comme ceux de Pauline Marois, que vous avez entendu ce matin, bien sûr. Jeannette Bertrand également, que je mettrais dans la catégorie grande femme du Québec qui nous a fait évoluer. Lise Payette, certainement, parce qu'elle a su faire rêver des milliers de Québécoises, leur montrer que c'était possible d'être d'abord une féministe, de le dire, de montrer que non, c'est pas vrai qu'on aboyait pour rien puis qu'on mordait, non. Être une féministe sereine, aimée du public aussi, parce que Mme Payette l'a été beaucoup, grâce à ses téléromans, entre autres, grâce à son talk show, Appelez-moi Lise, elle était devenue Lise. Des fois, on me demande pourquoi j'appelle mon émission Isabelle, parce que c'est mon prénom, et Lise Payette a été pour moi ce modèle-là. Tout le monde l'appelait Lise. C'était Lise. Évidemment, il y a eu l'histoire des Yvette. On pourrait en parler longtemps, puis a posteriori, on pourrait se demander aussi pourquoi on lui a acheté à ce point des roches. Je pense que c'était normal à cette époque-là aussi qu'une femme comme Lise Payette, une féministe, dise à d'autres femmes, regardez, on est capable de faire plus que ça. Oui, sortons des cuisines, allons là où les hommes sont, allons dans les lieux de pouvoir, allons là où les décisions sont prises, repoussons le plafond de verre. On continue d'essayer de le faire aujourd'hui, puis je pense qu'il faut pas lâcher. Je pense que c'est bien de le faire avec le sourire, de le faire en collégialité avec les hommes. Aujourd'hui, on assiste à un féminisme beaucoup plus collégial et de partenariat. Mais c'est grâce à des femmes comme Lise Payette, vraiment un modèle. Moi, je lui dis merci, Lise, de nous avoir permis de nous exprimer. Merci de nous avoir permis d'être là. Moi, je pense que si j'ai cette émission aujourd'hui, c'est sans doute parce que Lise Payette a été là avant pour tracer la voie. Nous aurons tout à l'heure à 11h05 quelqu'un qui l'a bien connue, qui a été aux premières loges avec elle à l'époque du Parti québécois dans les années 1976, bien sûr, un proche collaborateur à 11h05. Je vous disais donc qu'on allait parler de santé. Bien sûr, vous avez vu sans doute ce sondage qui a été commandé par l'Institut économique de Montréal, qui a mandaté la firme Léger pour recueillir un peu votre opinion, un peu partout au Québec. On a posé la question aux Québécois fin août. Est-ce que vous êtes satisfait des services en santé? Et est-ce que vous êtes finalement ouvert à plus de privés en santé? Il y avait entre autres cette question-là. C'est fascinant de voir les résultats. En fait, ce qui ressort, c'est que finalement, si on le savait, parce qu'on en avait déjà parlé, vous et moi ici, c'est que 80% des Québécois trouvent que la réforme Barrette et tout ce qui s'ensuit depuis plusieurs années, c'est-à-dire les soins en santé, ça vaut pas, ça lève pas haut. On a finalement payé beaucoup pour pas grand-chose. 22% seulement des Québécois qui estiment que les dépenses supplémentaires faites en santé, entre parenthèses, je vous rappelle le 7 milliards aux médecins, seulement un Québécois sur cinq pense que ça a donné des bons résultats. Et quand on regarde le détail du sondage, on se rend compte que c'est des jeunes. C'est des jeunes qui n'ont pas finalement été malades, peut-être, qui n'ont pas eu à aller appeler à la clinique le vendredi 4 heures pour se rendre compte qu'il n'y avait pas possibilité de rendez-vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a plein de jeunes qui voteraient libéral. Tu sais, je me demandais comment ça fait qu'il y a autant de jeunes qui votent libéral ou qui ont l'intention de voter libéral. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Parce que quand tu n'as pas été malade, ben, tu te dis, dans le fond, ben, peut-être que ça va bien, finalement. Pour discuter de ce sujet, je vous présente mes invités. Justement, il est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. Germain Belzile, merci d'être avec nous, Germain.
Merci de l'invitation.
Paul Brunet est président et porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Paul, merci d'être là.
Bonjour, Isabelle.
D'ailleurs, vous déposez ce matin un projet de loi pour tentativement espérer que... On vous écoute, hein? C'est un pas de plus pour essayer de se faire entendre. Merci, Paul, d'être là. Jacques Beaulieu est chroniqueur, blogueur WAFPOST Québec. Il connaît bien la santé. C'est un auteur depuis très longtemps sur la question. Merci, Jacques, d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors, bon, ce sondage, parlons à Germain, puisque c'est vous qui l'avez commandé, Germain Belzile. Êtes-vous surpris un peu de tout ça? D'abord, reprendre les grandes lignes, peut-être, là, les deux, trois points principaux.
Moi, je ne suis pas surpris. Je pense que un des chiffres forts du sondage, c'est qu'on a demandé aux gens s'ils étaient d'accord pour que des entrepreneurs privés puissent offrir des soins, davantage de soins de santé, pourvu que l'État en assume les coûts. Autrement dit, vous présentez votre carte d'assurance maladie en même temps.
C'est ça que les gens disent. Je veux bien plus de soins en privé, au privé. Mais je veux pas payer.
Oui, mais comme ça se fait en Europe, en fait. 70 % des gens étaient d'accord avec ça. Et ça, c'est loin de du narratif actuel puis de la discussion où je pense que des groupes bien organisés qui font peur aux gens en disant que plus de privé en santé, ça veut dire la privatisation, puis ça veut dire un système américain.
Parler de qui?
Et puis, il y a des groupes qui ont intérêt peut-être à ce qu'on préserve un monopole qui est pas à l'avantage des patients.
Paul?
Nous, au Conseil de la profession des malades, on n'a rien contre le fait que les murs et les lits d'un hôpital soient privés ou publics.
Ouais.
D'ailleurs, dans mon expérience, j'ai vu les plus belles choses et les pires horreurs autant dans le privé que dans le public. Mm-hmm. La différence, c'est les gars et les filles qui opèrent et qui œuvrent dans ces lieux-là. C'est ça, moi, mon constat, mon observation. Mais on n'a jamais eu de problème avec le fait que les murs soient privés ou publics, en autant, comme vous le disiez, que les soins soient payés par l'État et que tout le monde y ait accès, que les murs soient privés ou publics. C'est ça notre position au Conseil pour la protection des
malades. Vous craignez pas, pensez pas à la situation des ponts. Il y a des ponts là, qui commencent à être privatisés au Québec. On pense au pont de la 25, qui coûte un petit bras quand tu passes dessus ou quand tu oublies de payer ton 7$, ça devient 42$. Il n'y a pas une enflure potentielle, comme une espèce de risque à terme où ça risquerait de coûter plus cher, non?
Présentement, il y a des CHSLD privés conventionnés.
Ouais.
Les murs sont privés, mais l'État paye pour les lits, pour les soins. Ça coûte pas plus cher.
Ça coûte moins cher.
Et des fois, ça vaut aussi bien, sinon mieux, autant dans le privé que dans, je le répète, j'ai vu des belles choses et des horreurs dans les deux camps.
Ouais.
L'important, c'est que les soins soient assurés et assumés par l'État, que les lieux soient privés ou publics. L'hôpital Villa Medica, qui est un hôpital de réadaptation, est privé. Tout le monde y a accès selon les prescriptions, puis les envois, puis les références qu'on fait aux patients qui en ont besoin.
Mais juste une précision dans votre sondage, Germain Belzil, à l'Institut économique de Montréal, ce qui est ressorti, c'est que les gens n'ont pas forcément pensé au stationnement, au building, à l'édifice. Ils ont pensé soins de santé. Là. Pour eux, c'est les soins. Donc, ils disent, je veux bien aller voir un médecin au privé, mais je veux pouvoir sortir ma carte d'assurance maladie ou je veux pas avoir à payer 150 $, c'est ça?
Exactement.
Et c'est ça
la question qu'on pose. Ouais. Parce que en gros, le système qu'on a en Europe, si vous allez en Suède, en Suisse, en Allemagne, il y a beaucoup de... Le secteur privé est gros, mais de façon générale, vous pointez à l'hôpital et puis vous savez même pas si c'est un hôpital privé ou un hôpital public. Vous sortez votre carte d'assurance maladie et puis c'est couvert. Et alors, en Suède, par exemple, l'hôpital le plus efficient en termes d'accès, d'absence d'attente, etc., etc. C'est Saint-Goran et c'est un hôpital qui est entièrement privé. Et puis, les gens ne savent même pas que c'est un hôpital privé quand ils y vont, en fait. Et c'est ce qu'on suggère parce qu'on pense que ça va pouvoir améliorer l'accès. Parce que de façon générale, en Europe, quand on a un système comme ça, les attentes sont beaucoup, beaucoup moins longues. On est les recordman, nous autres, ici au Québec et au Canada, en termes d'attente pour voir des spécialistes pour passer à l'urgence.
C'est épouvantable. Etc. C'est épouvantable. Épouvantable. Moi, pour ma fille qui a un problème depuis qu'elle a eu une ponction ratée il y a 2 ans dans un hôpital de Montréal, on a essayé d'avoir des spécialistes. On est toujours, même sur la clinique de la douleur, on est sur la liste d'attente. Là. C'est 2 à 3 ans. Là. Tu te dis, voyons donc. On est donc allé en France. Puis même pour avoir accès à un spécialiste, on a téléphoné. Une semaine après, on a eu un rendez-vous. Et sincèrement, tu arrives sur place, ça a coûté 50 euros. Ici, là, tu vas voir un dermatologue, ça te coûte 300$. Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui ne marche pas, Jacques Beaulieu.
En fait, je pense que dans ce qu'on vient d'expliquer, en Europe, on fait très bien la distinction entre le 100% public, le privé subventionné, alors qui est un privé, mais qui est payé par l'État, qui est subventionné par l'État, et le totalement privé.
Voilà.
Ici, ben, on a préféré garder l'opposition public-privé.
Oui.
Alors... tout ce qui est public, ben ça, c'est bénéficiaire.
C'est fait la queue.
Puis tout ce qui est privé, ben là, c'est démoniaque, faut payer, puis c'est les plus riches qui l'ont seulement, etc.
C'est ça. Ouais.
Alors, je pense qu'au lieu de continuer à s'acharner sur ces mythes-là, il faudrait vraiment établir une collaboration beaucoup plus forte entre le privé et le public pour faire en sorte d'être en mesure d'offrir des soins. Parce qu'en fin de compte, là, qu'on élabore n'importe quel système, ce qui est important, c'est le patient qui attend, lui. C'est lui qui est important. C'est lui qui souffre chez lui. C'est lui qui est pas capable. Puis ça va avoir des effets pervers, ça. Présentement, moi, je connais des gens qui se rendent pas à l'hôpital, à l'urgence. Ils ont besoin de soins et ils vont pas parce qu'ils veulent pas passer 12-14 heures là-bas.
Mm-hmm.
Mais quand ils vont y aller...
Mais ils vont où?
Ils restent chez eux puis ils attendent. écoutez, vous avez accès à votre médecin, là. Vous l'appelez. Oui, oui, madame, pas de problème, vous allez avoir un rendez-vous dans un mois et demi. Ou dans deux mois, je ne sais pas. Mais en fait, vous ne le voyez pas, là, votre médecin. Vous allez avoir un rendez-vous. Mais si vous en avez besoin en fin de semaine, vous faites quoi? La seule porte qui reste, c'est encore l'urgence.
Ouais, mais il faut se rappeler que dans le projet de loi 33-2006, le ministre de l'époque, M. Couillard, avait ouvert la porte. Hanche, genoux, cataracte, offre aux patients de se rendre dans des cliniques médicales privées spécialisées, payées par l'État. On a ouvert déjà. C'est l'arrêt Chaouli qui a forcé la main au gouvernement. Alors, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Je sais que ça ne plaît pas aux syndicats, nos amis les syndicats, mais ce n'est pas vrai que dans un monde public syndiqué, c'est la vérité tout cru. Mmh. Il y a d'autres possibilités, en autant, répétons-le, que l'argent provienne de l'État et que tout le monde y ait accès. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça.
Regardez l'exemple de l'hôpital Sacré-Cœur où il y avait des listes d'attente extraordinaires pour des chirurgies dans le cas de cancer du sein. On a amené les chirurgies, on a donné les chirurgies à Rockland MD, une clinique privée. Les chirurgies sont là. La liste d'attente est tombée à zéro.
Ça a été très décrié, non, ça?
Oui. Puis là, c'était un scandale, ça fonctionnait.
Oui. Mais, et puis, je me souviens de reportages où on voyait la porte d'urgence, puis la porte quasiment de clinique Rockland. Là, en tout cas, c'était assez imagé où on se disait, mais regardez, là, quand les médecins passent d'une porte à l'autre, et ça a été mal vu, cette entente-là, de mémoire.
Mais, par contre, le patient était servi.
Oui.
Donc,
il va falloir aussi qu'il y ait un changement de mentalité, c'est
exactement,
ça que je veux dire. Là.
Mais ce dont on parlait dans ces reportages-là, c'était le médecin qui chargeait au privé, pas les services qu'il rendait payés par l'État. Mm. Parce que la clinique Rockland, je me souviens, dans la commission parlementaire, M. Couillard avait dit, le médecin peut être désengagé puis être engagé, dépendant des services qu'il a à rendre et à être assuré. Puis c'est moi qui vais décider discrétionnairement quand le médecin peut sortir puis revenir. Puis j'avais dit... ça va être tellement confus pour les patients. Il va manquer de murs pour mettre des affiches sur ce qui est prévu, ce qui est payé par l'État puis ce qui ne l'est pas. Faites un peu d'ironie là-dessus.
Oui, puis sur engager, désengager, ça ne marche pas, là.
Non.
Ou t'es in ou t'es out, là. Ben, il faut te brancher, là.
Et ça vient du projet de loi 33 sous M. Couillard. Nous, on avait dit, un médecin qui sort, là, c'est 2 ans. Tu veux sortir? 2 ans. Rappelons-nous que dans les années 60-70, là, il y a des gars et des filles, surtout des gars qui faisaient faillite comme médecin. Aujourd'hui, c'est difficile de faire faillite avec l'assurance que tu vas être payé. Mais
même si t'es mauvais gestionnaire.
Peut-être même. Mais je crois qu'il y a quelque chose là et les gens semblent le dire dans le sondage.
Oui, tout à fait.
L'autre chose qu'on peut voir, si on fait un survol, vous savez, M. Couillard, quand il est arrivé comme ministre de la Santé, on avait à l'époque des régies régionales. Il a changé ça en agence de santé. Là, M. Barrette vient d'arriver, il a changé les agences de la santé en CIUS. À part d'être plus compliqué comme nomenclature à chaque fois, il n'y a personne qui a vu l'iota ou l'ombre d'une iota d'une amélioration des soins pour le patient. Alors, autrement dit, on joue dans les structures, on change les noms, on change les structures, on crée la zizanie partout, puis là, le patient demeure tout le temps le grand ignoré de ces réformes-là. Et c'est ça que je pense que les gens, pour ça que les gens sont prêts à accepter d'aller n'importe où. Ils veulent avoir les soins. Ils veulent être soignés. Ils veulent se sentir en sécurité quand ils vont tomber malades. Ils veulent savoir qu'ils vont avoir des soins.
Ouais. Mais ils sont tannés de payer parce que visiblement, ils disent oui, pour plus de privés en santé, mais je ne veux pas ramasser le bill.
Il n'y a pas de problème d'argent
si
en santé.
Même si on le ramasse de toute façon.
Le problème d'argent, il n'est pas là en santé. Il y en a amplement d'argent dans le système de santé. Il y en a, à la limite, je dirais même qu'il y en a trop. Mm. Il est mal géré. Écoutez, on a 3 fois plus de fonctionnaires qu'en Suède. La Suède, c'est pas un pays tout à fait capitaliste.
Le fonctionnaire en santé.
Oui. Alors, donc, je veux dire, tous ces argents-là qui s'en vont là, je veux dire, parce que là, c'est rendu qu'on a un gestionnaire qui surveille l'autre, les gestionnaires.
Mais là, Jacques, vous êtes déjà tanné des gestionnaires à santé, ça va être long les prochains 4 ans. C'est ça qu'on nous propose tanné. Tous les partis ont décidé que les médecins, on en a eu notre quota. Fait que donc, là, ils ont décidé d'envoyer des gestionnaires.
Oui. Ça va être très bon, ça va régler tous les problèmes. Je vous invite, là, je veux pas empiéter là-dessus trop longtemps, mais mon article en fin de semaine, c'est les 3 façons de gagner une élection. En santé, la première façon, c'est de oublier le patient. Personne ne s'occupe du patient, ça donne absolument rien. Après ça, c'est de répandre la poudre de perlimpinpin et saupoudrer des millions ici et là, CHSLD, un petit peu partout. Et puis la troisième, c'est de créer des faux problèmes puis faire semblant qu'on va régler. Alors, c'est à peu près ça qui va se passer, là, présentement.
Pourtant, il me semble qu'en santé, on n'a pas besoin de se créer des faux problèmes. On a assez des vrais. Ben oui, mais donc, il faudrait qu'on s'occupe.
Ben oui, mais c'est bien plus compliqué de régler un vrai problème qu'un faux problème.
Ouais, mais quand on regarde les manchettes il y a 30 ans ou 40 ans, c'est les mêmes manchettes qu'aujourd'hui. Hein. C'est les listes d'attente, c'est les problèmes de coordination, c'est le fait que il y a plein de lits qui sont fermés durant le temps des fêtes quand on aurait besoin de plus de lits parce que c'est la période de la grippe, etc., etc. Il y a rien qui a changé. On a fait plein de réformes, mais c'est
ce qui a changé, c'est combien ça nous coûte toutefois.
Ça nous coûte plus cher. Ça a changé. On a fait des réformes bureaucratiques, on a centralisé. Et ce qu'il faut, c'est plutôt une décentralisation. Puis il faut qu'on ait un accès plus vaste, plus facile. Et ça va passer par une offre plus variée. Puis je pense que le privé a sa place là-dedans, financé par le public.
Regardez, exemple d'André, là, il m'écrit. On va aller à la pause après. La semaine dernière, il dit qu'il a fait 102 sites de fièvre. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous. C'est quand même pas mal de fièvre, là. On me dit qu'il faut prendre un rendez-vous la veille après 21h. Ça, c'est la nouvelle technique. T'appelles, tu parlais des boîtes vocales. Là. Il faut que tu appelles après 21h la veille, l'autre après 5h. En tout cas, ils ont tous des règlements différents, mais c'est comme appelle-moi pas là, appelle demain, appelle ce soir, appelle avant 8h du matin. Moi, j'ai déjà appelé avant 8h du matin. Des fois, les lignes, les gens sont là depuis 6h du matin qui ont appelé. Fait que t'as plus de place, tu sais, parce que des fois, t'as 3-4 spots dans la journée, c'est tout. Bref, il dit, j'ai essayé plusieurs cliniques, ça a été impossible d'avoir un rendez-vous. Il dit, aujourd'hui, il est toujours malade, le pauvre André. Il dit, je vais aller m'inscrire dans une clinique privée, ça arrive. Non, j'ai pas le choix. C'est ça au Québec. C'était ça il y a 3 ans, c'était ça il y a 5 ans, c'était ça il y a 10 ans. Là, des milliards plus tard, moi, je vous jure, on devrait tous être fâchés, là. On devrait vraiment, vraiment trouver que la campagne électorale est une honte à notre intelligence. Là-dessus, on va aller s'arrêter pour une pause. Je suis pas fâchée, là. Je suis très, très de bonne humeur. Je suis contente d'être avec vous, de vous parler ce matin, très zen. Allez vous chercher du café. On fait pareil, on jase ensemble ce matin. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes comme les gens du sondage, les Québécois, là, 70 % des Québécois en faveur de plus de privés, plus de soins privés en santé dans notre système universel, mais, on paye pas. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Sinon, êtes-vous prêt à payer plus? Dites-moi où vous vous situez là-dessus, 514-790-9850. Et ça en ferait partout au Québec, le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde.
Je suis en train de...
Évidemment, est-ce qu'on veut payer plus pour des soins de santé? Vous posez la question comme ça, les gens vont dire non, pas payer plus, on paye déjà beaucoup. Éric, comment vous voyez la chose? Le sondage, bon, évidemment, visiblement confirme un mécontentement généralisé au Québec par rapport à notre système de santé, par rapport au peu de soins qu'on reçoit pour le montant d'argent qu'on paye. C'est toujours ça hein, qu'on doit comparer, Éric.
Oui, absolument. Mais c'est vraiment l'offre et la demande qu'on essaie d'exploiter. Le patient, dans le fond, qui veut avoir des services, moi, je trouve que ça devrait tout revenir au public. Le privé, malheureusement, c'est que ça va faire exploser les coûts. On le voit, on l'a vu dans les pays même qui sont nommés là, depuis tantôt. Je vous donne un exemple. Ce qui manque, là, mon fils va à l'urgence pour 3 points de suture parce qu'il s'est cassé le doigt, ben, il s'est pété le doigt.
Ouais.
À l'urgence de Saint-Eustache. Il y a des personnes qui sont là depuis 1h de l'après-midi. Ça y a pris 13 heures avant d'avoir 3 points de suture parce qu'il y a 1 ou 2 médecins. Quand je demande, je dis, hey, dans le temps, on pouvait pager des médecins quand il y a trop d'attentes, ça n'existe plus. Parce que les médecins, ce qu'ils m'ont répondu, c'est que les médecins doivent être là pour leurs patients qui ont pris des rendez-vous privés le lendemain. Mmh. Alors, tu as 1 ou 2 médecins, tu as 1 ou 2 ambulances qui rentrent, c'est fini, là. Alors, il y a un manque de médecins dans le public et ça devrait revenir au public parce que l'addition, bien beau qu'on le paye avec la carte, on veut pas le payer, mais on le paye collectivement. C'est pour ça que le privé doit être aboli. Je donne aussi un autre exemple.
Aboli, vous dites-vous. Oui,
je le sais, mais ça devrait revenir. J'ai des amis médecins, des amis médecins millionnaires, qui ont moins payé d'impôts l'année passée que moi et ma femme ensemble. Ouais. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est rendu des mini-corporations. Et la seconde qu'on s'en va dans les corporations et dans ces choses-là, automatiquement, on va payer plus, c'est sûr. On le verra pas parce que c'est sur la carte, mais on va le voir à la fin de l'année. Puis là, ils utilisent le fait qu'on manque de services pour justifier un coût extra et justifier tous les médecins qui s'en allent vers le privé parce que c'est plus rentable. C'est normal que c'est plus rentable, ils vont aller vers là.
Ouais.
Ils ont des dépenses qu'ils déclarent tout ça, tu sais, c'est des petites mini-corporations. Alors,
ah non,
tu
c'est sûr. Ah ouais.
Avec,
merci.
Alors, c'est un bien collectif qu'on a besoin d'avoir.
Merci beaucoup, Éric. Lina, votre opinion sur les soins de santé privés?
Oui, bonjour. Moi, ça ne dérange absolument pas qu'on donne une partie au privé, mais qu'on ne paye pas la facture, bien entendu. Cela dit, je ne suis pas d'accord avec vous sur le point que ça n'a pas changé pendant 10 ans. Ça, je suis pas d'accord du tout, du tout. Moi, je suis passée déjà depuis... j'ai un garçon de 18 et un autre de 14, donc il y a 5 ans de différence. Et quand ils étaient petits, je galérais pour voir un médecin. Et j'étais tout le temps rendue aux urgences, toute la journée, une partie de la nuit. Ce qui n'est plus le cas, c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus d'accès. J'appelle le matin, je sais pas si je suis chanceuse ou je gagne à la loterie à chaque fois, mais je réussis. Allô?
Oui, on vous écoute. Je suis en train de me dire, allez vous acheter un billet de mini-loto.
Non, mais j'ai jamais gagné plus que $2. Non, mais je vous assure que c'est vrai. J'appelle. Ouais.
Vous êtes dans quel coin? Vous êtes dans quel coin, Lina?
J'étais à Saint-Léonard. Là, je suis rendue à La Prairie.
Okay.
J'appelle toujours la clinique Alexandre le matin à 7h moins quart, 6h moins 20.
Et ça marche.
Je vois pas nécessairement mon médecin. En passant, on a tous réussi à avoir un médecin de famille, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Mon mari n'avait pas de médecin, moi non plus. On a réussi à avoir un médecin de famille. Donc, le négativisme sur toute la ligne, j'aime pas ça parce que ça a changé.
Ouais. Merci,
Merci,
Lina. On a beaucoup de gens. Je vais donner la parole à Lise maintenant. Bonjour, Lise.
Allô?
Oui.
Moi, je pense que c'est le système qui rend les gens malades. Parce que la prévention n'est nulle. Mm. On devrait appeler ça le système de maladie et non de la santé. Fait qu'ils ont rendu, ce système-là a rendu tout le monde malade par les non conventionnels au niveau de l'alimentation, toute la pollution environnementale et tout ça. Hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous êtes conscients de ça. Et là, beaucoup de personnes âgées sont en fin de vie ou ils sont dans des résidences qui n'ont pas les soins qu'il faut. Et fait que les jeunes, c'est comme, il n'y a pas de problème, ils sont pas malades, mais ils vont le donner assez rapidement. Fait que ce système-là ne vaut plus rien. Zéro. Fait que les médecins n'ont pas de conscience, ils ne veulent pas que les gens soient en santé, parce que la médecine alternative est zéro, puis c'est tous des charlatans. Fait que, regarde, là, qu'est-ce qu'on vit, là? Ben, on vit ça. Les médecins,
c'est décourageant, hein, c'est ça. Merci.
Oui, je suis découragée. Moi, je suis une personne qui s'occupe beaucoup de sa santé. Et l'utilisateur payeur, pour moi, serait un outil extraordinaire.
Merci, Lise. Merci beaucoup. J'ai Marie-Chantal qui m'écrit. Elle dit, moi, là, concernant le système de santé, je me suis blessée le pied jeudi dernier. J'ai passé la fin de semaine assise à la maison à mettre de la glace sur mon pied. Il n'était pas question que je passe la fin de semaine à l'urgence. Elle dit, mardi, j'ai appelé mon médecin au privé. J'ai eu un rendez-vous une heure plus tard. J'ai pu passer un rayon X. 1h15, j'avais le diagnostic. Elle a 2 fractures au pied droit. Mais quand même, tu sais, entre jeudi puis une semaine plus tard, finalement.
Mais,
c'est quand même pas rien. Là.
Mais avoir cette situation-là, c'est-à-dire ne pas attendre pour voir un médecin, c'est la norme dans la plupart des pays européens où on a un système dans lequel le public le privé offre des soins.
Vous qui avez étudié ça, Germain Belzile, d'après vous, quel est le meilleur pays pour ça?
L'Allemagne est pas mal bonne. En Allemagne maintenant, en fait, dans les années 90 en Allemagne, ils avaient des gros problèmes de finances publiques. Puis ils ont décidé, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse des changements.
Qu'est-ce qu'ils ont
fait? Ils ont diminué le nombre d'hôpitaux publics, ils ont augmenté le nombre d'hôpitaux privés. Et puis ils ont un système dans lequel il n'y a pas d'attente. Il n'y a tout simplement pas d'attente. Et puis les coûts ont baissé, en fait, là-bas.
Ah oui?
Oui, et donc, mais à part la
Corée
du Nord...
Parce qu'aux États-Unis, c'est des hôpitaux privés, non?
Oui, mais on ne suggère pas du tout un système à l'américaine non plus. C'est pas un système à émuler.
Mais quelle est la différence entre le système américain et le système allemand?
Le système américain, c'est un système avec un patchwork. Il y a un système pour Medicare, il y a un système pour Medicaid, il y a un système pour les vétérans, il y a un système pour ci, il y a un système pour ça. Il y a des réglementations.
Donc, il y a une lourde bureaucratie.
C'est super lourd.
Ouais.
Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas couverts aussi. Nous, on suggère une couverture universelle.
Il y a ça en Allemagne aussi?
Il y a ça en Allemagne, il y a ça en Suisse, il y a ça en France, il y a ça en Suède. Mais sauf que le privé a une part importante. autres, mais les patients ne voient pas la différence.
C'est
parce
ça.
Que c'est le
ils se posent pas la question.
Non, ils se payent pas. Ils sortent leur carte d'assurance maladie et c'est payé, tout simplement. Mmh. Et à part la Corée du Nord et puis Cuba, peut-être, il y a pas d'endroit dans le monde où il y a un monopole comme celui qu'on a ici au Québec et au Canada, où c'est le public mur à mur. Il faudra peut-être qu'on se rende compte
les
de ça.
Les monopoles qu'on abrite ici au Québec, d'où ça vient, ça, cet amour des monopoles? Que ce soit pour l'alcool, là, c'est rendu le pot, là, ça va être aussi ça. Là. Je veux dire, pourquoi notre réaction, c'est toujours de créer un monopole?
Bonne question. Il va peut-être falloir qu'on se rende compte qu'il y a d'autres façons de faire les choses, d'autres façons de livrer les services au public, parce que c'est l'accès qu'on veut. On en parlait à la
L'accès,
tantôt,
c'est le contraire du monopole.
Si vous voulez, je peux parler peut-être du cas de ma femme.
Oui, allez-y, si vous voulez.
Ma femme est récemment décédée d'un cancer gynécologique. Et puis, elle n'avait pas vu un gynécologue depuis plus de 5 ans, à cause de la difficulté d'accès, en fait. Il faut aller dans une clinique, attendre des heures et des heures pour avoir un rendez-vous ensuite.
Et ça
pour
prend
avoir
des
un...
mois.
Et ça prend des mois. Donc, elle ne se donnait pas la peine, elle était occupée. Et puis, elle était négligente, sans doute. Mais si on avait un système dans lequel l'accès était facile, elle aurait consulté avant. Ça ne veut pas dire que le résultat aurait été différent parce que c'était très agressif ce qu'elle avait, là. Mais j'ai quand même ça derrière la tête un peu. Je me demande, est-ce que les choses auraient pu être différentes? Et puis, je suis persuadé que beaucoup de gens ont la même situation qui consultent quand il est tard parce que c'est du trouble.
Ouais. C'est vrai.
M. Benzil, vous, dans vos études, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'au Canada ou au Québec en particulier que pour voir un spécialiste, il faut absolument passer puis payer le praticien général? Est-ce que c'est juste au Québec ou si ça existe dans d'autres formules?
Non, c'est le cas dans certains autres endroits, mais c'est pas toujours nécessaire. Si on a une bonne raison d'aller voir un spécialiste, on demande un rendez-vous et
exactement.
Puis on explique pourquoi on a besoin de voir.
Pourquoi on n'a pas le droit d'appeler directement un gynécologue si on a un problème gynécologique? Je suis vraiment désolée.
Il y a beaucoup de redoublements qu'on fait. Pourquoi
Parce qu'à chaque fois, on paye.
On a besoin de revoir notre médecin qui va nous prescrire, par exemple, renouveler notre prescription sans nous examiner, là. Il va tout simplement signer le papier. Puis pourquoi la pharmacie pourrait pas faire ça? Pourquoi il n'y aurait pas d'autres façons
de
le faire.
Les monopoles, les lobbies, je lâcherai pas mon bout, c'est pas vrai. C'est ça au Québec. Là.
Exactement. On a plein de groupes d'intérêts qui sont super bien organisés dans tous les domaines. Et puis, malheureusement, c'est eux qui passent avant les patients.
Ouais. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Et bien sûr, vous me dites si vous estimez que vous êtes satisfait du réseau, du système de santé. Est-ce que vous êtes plus ouvert à plus de privés, de soins qui seraient donnés par un système privé? Comment vous voyez ça, là? D'après vous, l'organisation devrait être comment? Parce qu'en ce moment, c'est soit privé, soit public. De plus en plus, on va vers le privé, mais on paye, parce que c'est comme si le public n'existait plus dans ce cas-là. Est-ce que vous estimez qu'il y a moyen de mettre les deux ensemble? Comment vous voyez ça? 514-790-9850 et sans frais le 1-866-790-9850. J'ai Jean-Pierre qui pose une question à mes invités sur notre application et vous pouvez d'ailleurs m'écrire aussi sur isabelle@985fm.ca. Il dit, voulez-vous m'expliquer pourquoi faut prendre rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous? Ensuite, ils ont leur agenda tout rempli ou alors ils sont pas prêts, ils ont pas encore le... Il dit, sincèrement, là, c'est un non-sens. Il y a pas tort, Jean-Pierre. On a Sylvain avec nous. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, ça va bien?
Ça va. Oui, puis on est content que ça aille.
En fait, moi, si vous m'auriez posé cette question-là, il y a 2 ans, j'aurais dit on va dans le privé. Mais j'ai parlé avec une femme et puis elle a habité dans l'Ouest canadien.
Ouais.
Puis elle m'a dit non, elle dit ça fonctionne le public là-bas. Alors, ce que je me dis, peut-être que nos gouvernements devraient mettre leur ego de côté, dire écoutez, on est bon pour faire des barrages, mais dans santé, on ne l'a pas. Donc, on va arrêter d'essayer de racistoler ça et on va importer mur à mur une formule qui fonctionne ailleurs. Copie-coller, c'est tout. On essaie d'enlever dans le fond, il faut mettre notre ego de côté. Puis, je pense que c'est la chose à faire parce que sinon, le peuple va demander du privé. Et moi, je dirais, avant d'aller dans le privé, donnons une chance au public, mais il doit se réformer mur à mur.
Ouais. Monsieur Beaulieu, Jacques Beaulieu, vous en pensez quoi?
Oui, mais monsieur parle de la Colombie-Britannique ou dans l'Ouest canadien. Juste à traverser la frontière, puis aller en Ontario, puis il y a déjà un gros changement.
Tellement. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui le font.
Il y a des gens qui partent de Saint-Eustache qui s'en vont à Hawkesbury parce que c'est moins long d'attendre que là-bas puis de venir à l'hôpital
d'ailleurs,
de Saint-Eustache.
On est les champions patients mobiles pour aller chercher des soins. Je pense que c'est 300 millions que la RAMQ a payé à d'autres provinces. Et le ministre aurait répondu à un journaliste. Pourquoi les gens vont tellement ailleurs? Il aurait dit, c'est parce que les Québécois sont plus mobiles que les autres.
Ah bon? Eh bien, au moins, on a une qualité qu'on ne connaissait pas.
On a des autos.
Parce qu'on a des belles routes en bon état.
C'est incroyable. Mais avez-vous entendu les aspirantes au poste de ministre de la Santé tout à l'heure? Là? C'est pathétique. Là. On a un petit extrait.
Moi, je veux continuer d'améliorer les choses.
Vous vous changerez.
Non, mais les gens sur le terrain ne peuvent
pas non plus promettre l'impossible.
Je veux pas promettre des changements.
Il y a une chance que Paul Arcand les a arrêtés parce que c'est sur le poulailler. Là. C'est, moi, je trouve ça pathétique. Là. Ça jacasse, ça dit « Je veux continuer d'améliorer les choses. » Allô? C'est parce qu'on l'a dit, là. Ça ne s'est pas amélioré tant que ça. Il y a peut-être Lise qui trouvait qu'elle, a, sur la rive sud, elle avait trouvé une tale. Peut-être, ça se peut qu'il y ait des expériences ici et là où, effectivement, il y a peut-être, vous êtes peut-être chanceux, vous avez eu un GMF d'ouvert dans votre coin. Puis qu'il y a essentiellement quelques médecins là, qui sont disponibles. Mais Lise disait qu'elle ne tombait jamais sur le même médecin avant d'avoir son médecin de famille. Et ça, je l'ai vécu aussi. Puis je peux vous dire que ça peut créer des problèmes. Ah, pour avoir accès à un médecin, mais c'est pas comme quand tu vas dans une quincaillerie, puis quand même que le caissier ou que celui qui t'aide à choisir ton 2x4, ça soit pas le même gars, c'est pas grave, tu sais, t'as pas trop de risques pour la santé. Mais quand tu vois un médecin qui dit, on va te donner tel antibiotique, tu vois un autre médecin qui dit, on va te donner un autre antibiotique, puis là, alors que le suivi patient, je suis pas médecin, mais tous les médecins vont reconnaître que le suivi patient, c'est hyper important, n'est-ce pas, Paul?
Oui, absolument. D'ailleurs,
parce que il peut y avoir des interactions entre les médicaments que l'un te prescrit que l'autre. C'est pas que tu l'as eu parce que toi, comme patient, peut-être que tu arrives très malade, tu vas pas faire ta liste de médicaments. Docteur Laberge nous dit tout le temps qu'on n'est pas très bon là-dessus, qu'on connaît pas non plus. Je prends la petite pilule rouge, je prends la petite blanche carrée, non pas celle-là, l'autre. Tu sais, on devrait peut-être plus s'occuper de ça aussi, mais des fois, magasiner ces médecins, passer de l'un à l'autre, c'est pas le système qu'on souhaite, là.
Non, puis ce qui est triste, c'est qu'il y a 500 000 patients de plus qui sont inscrits auprès de médecins de famille, mais il y a toujours à peu près le même monde qui se présente à l'urgence. Il y a 40 000 personnes de moins cette année qui s'est présentée à l'urgence depuis 2016, mais 40 000 sur 500 000, ça fait qu'il y a du monde qui voit pas son médecin de famille, même s'il est inscrit auprès de lui. Il voit d'autres médecins avec les conséquences et les risques que cela pose, et l'aggravation des coûts, comme M. Belzile le disait tantôt.
Mais ça, c'est particulier, parce que les gens donc ont plus d'accès à un médecin de famille, en théorie, sur le papier, là, sont inscrits, mais ils ne le voient pas plus forcément, c'est ce que vous nous dites. Mais ils voient qui, d'abord?
Bien, ça, ils se retournent à l'urgence. Il y a encore bien trop de monde qui va à l'urgence, pour les urgences mineures 4-5, pour des suivis, pour des maux de toutes sortes. Et c'est ça qu'on tente de régler
donc,
depuis 10 ans.
Sur papier, on a amélioré les choses, mais dans la réalité, ça n'a pas changé tant que ça.
Mais les gens ont un médecin de famille, Germain. Mais si on l'appelle, il va nous dire, ben, tu vas venir dans 2 semaines me voir.
C'est ça.
Et là, si on a
une
urgence,
2 semaines, vous êtes chanceux.
Ben, c'est 2 mois peut-être.
2 mois. Jacques, ce qui est étonnant, vous dites, il faudrait peut-être avoir une société d'État un peu comme Hydro-Québec, comme Hydro-Santé.
Oui.
C'est quoi votre idée de ça?
En fait, je ne suis pas seul à avoir cette idée-là.
Docteur Yves Lamontagne, là aussi.
Il l'avait eu, il avait dit il faut que le gouvernement cesse de faire de la politique avec la santé et fasse des politiques de santé. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont eu... Dans un livre que j'ai écrit il y a 4 ans avec Docteur Alban Perrier, Révolutionner les soins de santé, c'est possible. On arrivait à 3 conclusions. Dépolitiser la santé. Alors, si vous faites une société d'État, ben le gouvernement, là, présentement, c'est pas lui qui va acheter les poteaux de téléphone, puis c'est pas lui qui négocie les salaires avec les employés. C'est la société d'État, Hydro-Québec, qui négocie ses affaires, puis qui s'arrange avec ses choses, puis ça va bien. La société des alcools, c'est la même chose. C'est pas le gouvernement qui va négocier le prix des vins. C'est pas le gouvernement qui va décider combien.
Oui, il paraît que la SAQ, c'est pas un meilleur négociateur. Puis en matière d'hydro, des fois, on paye pour du vent dont on n'a pas besoin.
Exactement. Mais sauf que c'est...
Moi, les sociétés d'État en top, ce qu'on a déjà, je suis pas sûr. Mais...
Ben, en fait, on règle une foule de problèmes qui sont là présentement. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est décentraliser. Ça, M. Belzile en a parlé un peu tantôt.
Ça,
mais là, moi, je pensais qu'on était parti du bon côté. En faisant 29 conseils d'administration, on disait, chacun va avoir... Et si vous décentralisez, vous allez avoir deux avantages, c'est que chaque région va être mieux servie, puis en plus de ça, les bons trucs qu'on va trouver dans une région, les autres régions vont vouloir le faire. Alors donc, on va... Tandis que quand c'est juste le chef qui a des bonnes idées, il y a des fois qu'il peut être en panne. Alors donc, c'est... Puis la troisième chose, c'est démocratiser. Il faut que le patient soit présent au ministère de la Santé, puis qu'il soit capable de dire son mot, puis qu'il soit consulté pour ce qu'on prévoit faire, puis qu'il ait droit à la parole. Là, présentement, le patient, il est est aussi oublié là qu'il l'est dans ses soins. Puis quand on parle des retards de soins, là, ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème qu'on parle pas, c'est les retards aussi dans l'accès aux médicaments. Vous savez qu'au Québec, ça nous prend un an de plus pour avoir accès aux mêmes médicaments qu'en Ontario.
Ouais, ouais, ouais.
Alors,
ouais.
C'est on a un système là, qui s'auto-nourrit au détriment des patients.
On a le docteur Gilles Goulet qui nous appelle. Il écoute notre discussion en ce moment. Il est cardiologue au CHUM. C'est bien ça, docteur Goulet?
C'est bien ça, oui.
Merci de nous appeler. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là, par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant?
Oui, en fait, j'ai été interpellé lorsque vous parliez pourquoi un patient ne pourrait-il pas voir un médecin spécialiste directement?
Oui.
La réponse est très claire, en tout cas claire à mes yeux, peut-être que je me trompe. Mais moi, je considère que le médecin de famille, c'est le chef d'orchestre du patient. Alors, si tous et chacun se mettent à aller voir des spécialistes sans que le médecin de famille soit au courant, à ce moment-là, comment pourrait-il prendre en charge vraiment le patient alors qu'il y a peut-être 2, 3, 4, 5 spécialistes que le patient va avoir été voir directement? Alors ça, c'est la notion vraiment de prise en charge. Moi, je veux bien qu'on voit directement les patients, mais encore faut-il que les patients nous donnent les bonnes références à savoir qui est leur médecin ou leur médecin pratique pour que moi, je puisse leur envoyer des informations.
Mais comme il y a encore beaucoup de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, ça, il y a un problème. Si tout le monde en avait un, ce que vous venez de dire, effectivement, on pourrait être d'accord. Mais il y a beaucoup de Québécois qui n'en ont pas, fait qu'il faut qu'ils s'en trouvent un, même temporaire. Oui. Pogne n'importe quel médecin que tu pognes sur le fly, puis ça va être ton médecin qui va t'amener ton ticket pour aller voir un spécialiste. Non, mais c'est bête de même.
Oui.
c'est ça, là.
Comme ça, mais juste en terminant, là, je dois avouer là, qu'il y a eu un gros changement là, à l'intérieur de la dernière année surtout. Il y a de plus en plus de gens qui ont un médecin de famille. Mais lorsqu'ils ont l'appel pour aller voir le médecin de famille, ils s'informent autour, à savoir, « Docteur Joe Blue Laframboise, est-ce qu'il est bon? » Non, alors ils n'y vont pas. Alors, c'est une question, là, tu sais, à un moment donné, il va falloir prendre en charge là, nos propres personnes. Il faut s'imputabiliser nous-mêmes. On a un nom, on a un médecin qui est prêt à nous voir, allons le voir. Sinon, si on n'annule pas le rendez-vous, on prend la place de quelqu'un d'autre. Alors, je veux bien que les spécialistes, on voit directement en première ligne, dans certains cas d'exception, parce que le type n'a pas un médecin de famille, mais dans la majorité des cas maintenant, je pense que la place d'un médecin de famille, c'est le chef d'orchestre. Et on doit passer par lui si on veut être bien traité dans son ensemble.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Dr. Goulet, d'avoir pris le temps de nous appeler.
Si ça prenait pas autant de temps pour voir vraiment son médecin de famille, pour vrai, quand on en a besoin, puis si ça prenait pas autant de temps pour éventuellement avoir la référence puis voir le spécialiste, on serait pas à discuter de ça ce matin. C'est la lourdeur, c'est la lenteur, c'est le red tape qu'on s'impose et qui est imposé. Tu sais, quand il y a un problème de santé, là, on voit un médecin, ouais, on est référé, puis le lendemain, on voit le spécialiste. Pourquoi c'est pas de même?
Mais pourquoi?
C'est de même ailleurs.
Le docteur Goulet disait, là, les gens, ils apprennent que leur médecin qu'on leur a référé, c'est pas un bon médecin. C'est vrai que de plus en plus, les Québécois sont allés voir sur Internet. On est pas fous. On va voir, on va magasiner.
Ben oui.
Ils nous ont encouragés à magasiner notre médecin. On le fait. On sait. Alors, quand on voit que sur Rate My Doctor, on lit. Moi, je l'ai fait beaucoup là, pour certains médecins. J'ai dit, ben là, je veux pas le voir, lui. Il est bête, il prend pas le temps que ses patients, il y a pas d'empathie. Non, je veux pas te voir. Je veux parler de ma santé.
Puis, je trouve ça intéressant parce que les médecins, puis leur corporation, puis le ministre, même jusqu'à un certain point, disent toujours, il y a 20% des raisons pour lesquelles les rendez-vous sont reportés à cause du patient.
Ouais.
Oui, mais ils parlent jamais du 80%.
Que c'est le médecin.
C'est facile de planter le petit, mais les gros, puis les organisations, puis le réseau, à 80% responsables du report des rendez-vous, on n'en parle pas, c'est étrange.
Mm-hmm. Puis ajoutons aussi que si un patient ne se pointe pas, le médecin il a fait d'overbooking de toute façon. Le médecin n'est pas en train de passer 15 minutes dans son bureau à se tourner les pouces. Là, parce qu'on est tous convoqués pour 8h30 le matin de toute façon.
Oui, okay? Ouais, souvent.
Que je pense que c'est fort en ketchup.
C'est peut-être quelqu'un qui aime bien les libéraux au pouvoir et puis qui c'est ce que le docteur Barrette dit. C'est ce que le Barrette nous dit depuis des années. C'est beaucoup la faute des patients. Si c'est engorgé à l'urgence, c'est parce qu'il y a des gens qui font pas ce qu'ils devraient faire. Il y a trop de monde qui va à l'urgence pour rien. Moi, je trouve que c'est insultant de se faire dire ça. Comme de se faire dire aussi, ben, t'as un rendez-vous avec un spécialiste, on y va pas parce qu'on n'aime pas la face du médecin. Je pense pas. Je pense que les Québécois, en général, quand ils ont un spécialiste à voir, ils y vont.
Ben, ça prend tellement de temps, c'est tellement compliqué d'avoir un rendez-vous que tu ne sais pas de toi-même que tu le laisses tomber, certains.
Ouais, ouais. Je vous dis, la prochaine pub de l'Auto-Québec là, sur Achète-toi un billet de mini-auto, c'est t'appelles ton médecin, tu dis oui, vous pouvez venir tout de suite. Wow! Hey, je veux un billet de mini-auto. On vient tout de suite après. Bonjour Michel, êtes-vous comme 80% des Québécois insatisfaits du système de santé, mais surtout est-ce que vous seriez ouvert à aller plus au privé et à payer peut-être une contribution supplémentaire?
Oui ma chère, parce que moi en ce moment, je suis membre d'une clinique privée.
OK.
Ça me coûte 175$ par année. J'ai une infirmière qui est attachée à moi.
Mm-hmm.
Puis un exemple que je vais vous donner... On m'a découvert une possibilité de cancer le 2 septembre 2017. Et le 24 octobre 2017, mon cancer a été opéré, enlevé et avec un suivi. Essayez d'avoir un rendez-vous avec une dermatologue, vous.
Ah non, c'est très difficile. Même quand on paye, d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de dermatologues sont au privé.
Mm-hmm.
Et même quand vous payez, c'est prenez votre ticket pour attendre. Là. Wow, vous avez été bien chanceux. On est content pour vous, Michel. Merci beaucoup. C'est dans quel coin, ça, votre clinique, à 175$ par an?
C'est à Candiac.
OK.
Et puis, je peux vous dire que 2 semaines après, j'avais un rendez-vous avec la dermatologue, parce que la clinique, elle va t'aider pour avoir des rendez-vous. Parce que la plupart des médecins qui sont là travaillent à la Jewish Hospital.
Oui, oui.
Puis.
Où le système marche un peu mieux, effectivement. Ouais.
Ben, moi, je peux vous dire que quand tu te présentes à Jewish, tu te sens pas mal reçu.
Oui, ils ont un système de triage qui est très différent. Le triage est très différent de Duchesne, par exemple. Oui, oui, oui. Je le connais bien, cet hôpital-là. Merci beaucoup. Merci bien. Puis prompt rétablissement. Bonjour, Normand.
Oui, bonjour, Isabelle. Alors moi, peut-être je devrais aller m'acheter un 649 cette semaine. Là, j'ai un bout d'histoire un peu différent. Là, ma femme est hospitalisée actuellement à Charlemagne avec des gens extraordinaires. Je vais vous raconter très, très brièvement l'histoire. Ma femme ne filait pas bien depuis jeudi passé. Mais comme toujours, quand on ne file pas, on ne se garoche pas à l'hôpital tout de suite. On dit « ça va passer, ça va passer
ouais. ».
Finalement, lundi matin, à ma grande surprise, elle a pris rendez-vous. Ma femme et ma fille ont obtenu un médecin de famille via le système, là.
Oui, vous vous êtes inscrit.
En ligne, ils ont obtenu un médecin de famille. Elle a appelé à la clinique à 8h moins quart. À 8h10, elle avait vu un médecin qui l'a référé à l'hôpital Charles-Lemoyne.
Mm-hmm.
Ben, à l'hôpital, on a choisi Charles-Lemoyne.
Ouais.
Et on est allé à Charles-Lemoyne. On n'était pas allé là depuis quelques années. J'ai eu l'impression d'arriver comme dans un aéroport. Là. La salle d'attente, c'était des fauteuils confortables. Le triage fonctionnait de façon merveilleuse. On est arrivé à Charlemagne vers 8h15, 8h30. Donc, vous devinez qu'on est sur la rive sud. Et je te dirais que vers 11h, on avait vu un médecin à Charlemagne. On voyait nos priorités. Là. Elle était cotée priorité 3.
OK. Qu'est-ce qu'elle a, finalement, votre conjointe? Qu'est-ce qu'elle a comme...
Alors, finalement, elle a été mardi après certains tests. Elle a passé la nuit à l'hôpital après certains tests. Elle a été opérée mardi soir. Un problème de vésicule biliaire, etc. Et là, elle est encore à l'hôpital. Alors, moi,
Vous n'avez rien à dire contre le système. Pour vous, il a fonctionné.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'ai rien à dire contre le système. Mais là, dans ce cas-là, il y a eu un bon alignement de planète. Vraiment, j'étais surpris que le GMF était ouvert lundi, qui était la fête du travail.
Ouais. Mais savez-vous quoi, Normand? Je pense que vous avez raison. Moi, je dis souvent, quand ça saigne, on est bon au Québec. Quand ça saigne, que t'as une grosse tumeur, que t'as un problème comme sans doute la femme de Normande, t'es pris en charge, là, ça roule. Le problème, c'est l'accès. Le problème, c'est d'arriver là, ou alors on va quand même pas souhaiter.
On est arrivé vite en une heure, en 2 heures, on était dans la machine.
Ben tant mieux. Puis imaginez, mais c'est quand même beaucoup de milliards plus tard pour que quelques personnes en arrivent à pouvoir être content là,
et
du
ça
service.
Devrait pas être l'exception.
Merci Normand.
Oui. Ça devrait pas être l'exception, ça devrait être la norme.
Voilà,
ça.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on devrait dire à ceux qui ou à celles, puisque c'est toutes des femmes qui se proposent d'être le prochain ministre de la Santé, les aspirantes au poste de ministre, là, ça vous Jacques Beaulieu?
Écoutez les patients.
Ouais, ça a l'air d'être raté. Ouais.
Ça prend des cliniques d'infirmières comme il y en a ailleurs au Canada, puis ici, on a tellement de misère. Mm. Les infirmières sont capables de traiter beaucoup des cas, ouais, des cas de classe 4, classe 5.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Germain.
Et moi, je dirais, il faut mettre le patient au cœur des choses. Ça veut dire augmenter l'accès, puis ça va passer par une offre plus diversifiée.
Merci à tous les trois. Merci beaucoup.